Donc c'est un moment très agréable pour moi, j'espère que ça sera pour vous également. D'autant plus que j'aurai à cœur de vous transmettre non pas seulement le résultat de travaux académiques avec force détails scientifiques. J'avoue que l'éloignement à présent de la soutenance de la thèse a pu effacer quelques détails techniques, mais plutôt de vous donner la substance de cette fréquentation, comme disait Alexis, de Jean Chrysostome, parce qu'il s'agit vraiment d'une fréquentation personnelle. Je me souviens de Benoît XVI qui disait, quand vous allez arriver au ciel, qui c'est que vous aimeriez saluer dans les premiers? Et il dit, ah, dans les premiers, j'aimerais beaucoup Augustin, parce que je l'ai beaucoup, beaucoup lu, et j'ai l'impression de connaître. Et je peux comprendre cette familiarité avec un auteur en me rappelant ce qu'a été l'expérience de fréquenter Jean Chrysostome pendant plusieurs années. Effectivement, je pourrais le faire passer après. J'ai soutenu cette thèse en fin 2022 à Rome, chez les bénédictins de l'Institut Saint-Anselme, et qui m'ont d'ailleurs. C'est grâce à eux qu'elle a pu être publiée. Et récompensé d'un prix duquel j'étais heureux, puisque finalement je n'avais pas été le seul à avoir un peu d'enthousiasme pour le sujet, mais il avait été partagé par quelques lecteurs au moins. Et sur mon propos, on me demandait, quelques-uns parmi vous me demandaient dans la journée si ça allait être compliqué à comprendre comme propos. J'espère que non. En tout cas, je vais tout faire pour que ce soit le plus accessible possible. Et mon propos sera organisé de la manière suivante. D'abord, je vous donnerai un bref aperçu biographique de Jean Chrysostome. Parce que l'homme avant l'auteur, si l'on peut dire auteur, vaut la peine d'être connu. Et puis, dans un second temps, je vous présenterai disons, perspective historique de mon travail, parce que je la trouve particulièrement suggestive et pleine d'enseignements. Je m'expliquerai après là-dessus. Et puis dans un troisième temps, je vous donnerai un aperçu un petit peu du contenu, mais qui sera un survol, qui vous donnera une idée un petit peu de quel peut être le contenu de ces tant de pages. Et puis surtout, à travers ça, vous donner un petit peu la cuisine interne, disons. Je me souviens d'un ami jésuite qui disait, on pose souvent la question à des auteurs, des gens qui ont travaillé sur des sujets, de donner un petit peu le résultat, mais parfois il est intéressant de savoir comment ils en sont arrivés là, concrètement, techniquement. Et dans mon cas, ça peut avoir deux, trois détails que vous pourriez connaître, auront un certain intérêt dans ce sens. Et puis, la dernière partie, toutes les parties ne sont pas forcément égales entre elles, mais j'aimerais vous expliquer le titre que j'ai choisi en fait, qui est celui donc de la conférence Vivre est un art, une théologie de la liberté chez un père de l'Église, Jean Chrysostome, mais qui est aussi le livre de l'ouvrage quand j'ai terminé en choisir un. Et il a été choisi à dessein, mais j'expliquerai pourquoi. D'abord, dire quelques mots de cette grande figure de l'histoire de l'Église qui est Jean Chrysostome. Je le présente souvent de la manière suivante pour le situer dans l'histoire. C'est un parfait contemporain de Saint Augustin. Ils sont nés à peu près à la même période. On sait très exactement qu'Augustin est né en 354. Chrysostome, la date de naissance de Chrysostome est plus incertaine, mais elle est aussi dans les années 50, 350. Donc on est dans la deuxième partie du IVe siècle, le siècle d'or de la patristique. Et Saint Augustin a vécu jusqu'en 430. Chrysostome, lui, est mort un peu auparavant, dans l'année 407. Donc la vie de Chrysostome, c'est vraiment toute la deuxième partie du IVe siècle. Et la comparaison avec Augustin, d'ailleurs, ne s'arrête pas là, parce que autant l'importance qu'a eu Augustin dans la sphère latine, de langue latine, pour les siècles qui ont suivi de tradition théologique latine, est équivalente à celle que Chrysostome a eue en grec. Et même, je dirais, la réputation et l'influence qu'ont eu ces deux auteurs sur aussi bien le côté oriental qu'occidental de l'Église est équivalente. Aujourd'hui encore, dans le bréviaire, l'office des lectures romain, Jean Chrysostome tient, les textes de Jean Chrysostome tiennent une part très importante. contemporain de saint Augustin, donc, mais né dans l'autre partie de l'Empire, à Antioche, qui est aujourd'hui Antakya, une ville qui se situe du côté turc, mais à la frontière avec la Syrie, du côté de la Méditerranée, qui s'est rendue malheureusement célèbre à cause du tremblement de terre d'il y a 2 ans, il me semble. Et c'est un fils d'une famille urbaine déjà. Antioche est la 3e ville de l'Empire à ce moment-là. 3e ou 4e après, non, 3e. Après Rome, évidemment, mais entre Constantinople, Alexandrie et Antioche, c'est une très grande ville, avec beaucoup de communautés religieuses différentes, un centre vraiment urbain, et avec une qualité culturelle, sociale, vraiment très élevée. Il a reçu une éducation digne de son milieu social assez favorisé, disons, sans être très haut non plus. En particulier, il y avait une figure à Antioche qui est celle de Libanus, qui était une figure de rhétorique et de philosophique très connue à l'époque, une figure universitaire, si vous voulez. Et il a reçu une formation chrétienne très intense et très jeune déjà, dans son adolescence et sa prime jeunesse, à l'Asketikon, qui est le nom d'un institut de formation chrétienne sous la houlette de l'évêque de cette ville-là, et qui s'appelait Mélès à ce moment-là. Il a été baptisé jeune, à 18 ans, ce qui n'était pas la norme à l'époque. C'est le signe d'une résolution, en tout cas, très, très précoce de sa part, d'embrasser la vie chrétienne, parce que le baptême était un engagement à une vie religieuse, en quelque sorte, particulièrement prise au sérieux. Il a baptisé très jeune, donc vers les années 367, et il a eu le vœu de rejoindre la vie monastique, ce que sa mère lui en a empêché, en lui disant « Moi vivant, tu ne partiras pas comme moine. » Donc il a attendu la mort de sa mère, qui est survenue malheureusement assez tôt. Et de cette expérience monastique, il a retenu deux choses. La première, c'est qu'il s'est détruit la santé. Il est resté plusieurs années sur les collines en haut d'Antioche. Il s'est détruit la santé à force d'ascèse, en particulier des maux d'estomac qu'il poursuivront toute sa vie. Mais il a aussi revenu de ce séjour monastique avec une connaissance des Écritures particulièrement vive et aiguë et précise, que le reste de sa carrière ecclésiale ne fera que confirmer. Il a été ordonné diacre dans les années 380-81, il a environ une trentaine d'années, et puis prêtre en 386 par l'évêque Flavien. Et déjà comme diacre, il a commencé une carrière de prédicateur. Et peut-être là, j'aurais dû commencer par mentionner ce point-là, Jean Chrysostome. Chrysostome, en grec, ça signifie « bouche d'or ». Et finalement, nous ne sommes pas face à un auteur dans le sens strict du terme, c'est-à-dire que ce ne sont pas des textes qui sont restés, les textes qui nous sont restés de lui, ont finalement la plupart du temps été prêchés, ce sont des prédications. Et ça donne un aspect tout à fait particulier à son œuvre. En 387, survint à la ville d'Antioche la crise des statues, qui a été une révolte populaire où les statues de l'empereur ont été renversées, ce qui aurait pu valoir une répression très forte de l'empereur. L'évêque et les ecclésiastiques ont intercédé en la faveur du peuple de la ville. En 396, un grand événement, c'est la mort de Saint Nectaire, sur le siège de Constantinople, évêque de Constantinople. Et dans les années 396-97, l'empereur demande que ce soit Chrysostome qui soit nommé à ce poste-là. Plus ou moins contre son gré, d'ailleurs. À Constantinople, il a continué de faire œuvre d'une discipline de vie particulièrement ascétique, disons, même s'il vivait en pleine ville, et aussi la preuve d'un caractère assez peu facile à vivre, et assez rude, manifestement. Il crée des amitiés à la cour, en particulier autour du cercle impérial, voire même de Flavius Arcadius, empereur à ce moment-là, et de sa femme Eudexie, mais aussi des inimitiés assez fortes, de par ses prédications, en fait, qui ont un fort caractère social et politique, dirons-nous, de dénoncer des inégalités. En 399 survient un épisode savoureux dans cette carrière-là, comme évêque de Constantinople, qui durera une dizaine d'années, où le premier ministre sera déchu et demandera l'asile politique à l'intérieur de la basilique, en tenant les cornes de l'autel et en demandant de ne pas être arrêté. Et le dimanche suivant, Chrysostome aura le le plaisir en tout cas, le goût de prêcher dans son assemblée en disant, en commençant son homélie en disant « Ah, vanité, des vanités, tout est vanité. » Et en sachant que le Premier ministre était là derrière et que la semaine d'avant, c'était le plus haut dignitaire de l'Empire et qu'aujourd'hui, il était réduit à rien. En 403, Théophile, l'évêque d'Alexandrie, vient à Constantinople et en fait, Théophile gardera une inimité très très grande envers Jean Chrysostome parce que Théophile aurait aimé mettre son candidat à la place de Chrysostome, ce qui n'a pas été le cas. Et pourquoi je parle de cet épisode-là? Parce que ça va lui valoir de fortes oppositions d'ordre politique, politico-ecclésial. Et en fait, Théophile va tout faire pour faire déchoir à Jean Chrysostome. Ce à quoi il va parvenir en rassemblant tout un parti de mécontents, et ils pouvaient être nombreux, aussi bien dans les cercles ecclésiastiques que sociaux, disons. Et en septembre 403, en plus le caractère de Chrysostome n'aidant pas, dénonçant les abus de richesse et d'ostentation une nouvelle fois de l'impératrice, en la comparant comme à la nouvelle Hérodiade, ce qui est assez peu flatteur pour ceux qui connaissent la Bible, il va subir un premier exil qui va être assez vite interrompu parce que l'impératrice fera une fausse couche. Donc elle y voit un mauvais présage, elle dit « c'est parce que j'ai exilé Jean Chrysostome », on va le rappeler aussi rapidement. Mais l'année suivante, après un coup de force, la nuit de Pâques, décrit dans des termes extrêmement vivants et suggestifs dans une lettre que Chrysostome écrira au pape de ce moment-là pour se défendre, et un pseudo-concile rassemblé par ses opposants qui obtiendront cette fois son exil définitif en 404. Et il sera d'abord exilé au milieu de l'Anatolie, disons, au milieu de la Turquie actuelle, et puis en 407, en 404, plus exactement, une nouvelle condamnation l'exilera encore un peu plus loin, et il mourra la même année aux frontières de la Turquie, de l'Arménie actuelle. Et ses dernières paroles sont restées fameuses dans la tradition, ce qu'il aura dit, exilé et esselé de tous, mourant finalement d'épuisement, gloire à Dieu en toutes choses. Ce n'est qu'en 438 que ses restes et ses reliques seront ramenés à Constantinople. Finalement, les caractéristiques du personnage sont pleines de paradoxes. C'est un homme, et j'ai été payé pour ça, dont j'ai lu... Donc, il faut se rendre compte que, d'abord, il a prêché quasiment avant son diaconat jusqu'à la fin de sa vie, en 407, donc on va dire pendant une vingtaine d'années, entre 20 et 25 ans. Et la somme de ses écrits, c'est ce qui reste de plus important dans la littérature écrite en grec ancien, en termes de volume. Donc ça représente vraiment, dans la patrologie grecque, entre 15 et 20 volumes, je ne sais plus exactement. Donc c'est très très abondant. Ça veut dire aussi que tout ça a été pris en sténo la plupart du temps, par l'Assemblée, donc cet homme devait susciter une fascination extraordinaire par la force de sa prédication. Et ayant passé des heures et des heures et des heures de son existence à prêcher, il ne parle pourtant jamais de lui. Il y a très très peu de détails sur ce qu'il est en train de vivre ou ce qu'il a pu vivre dans ses prédications. Souvent ce sont des allusions. Il ne parle jamais de lui et pourtant il est très connu, aussi bien à l'époque que maintenant. C'est un homme très intelligent, mais pas du tout un intellectuel. Ça lui arrivait d'écrire des traités sur des sujets touchant le sacerdoce, des débats théologiques de son époque, mais c'est assez rare finalement. Et la plupart du temps, c'est un point notable de ses prédications, elles sont orientées vers l'exhortation. Je vais y revenir. C'est un familier de la cour impériale, mais c'est aussi en même temps un ascète. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible, si j'essaierai d'y revenir. On le sent bien, et pourtant pas du tout diplomate, voire même dépourvu d'intelligence politique, quelque part, un peu Saint-Jean-Baptiste, en quelque sorte, dans son genre. Très percutant pour son auditoire, voire même dérangeant la plupart du temps, véhément, impétueux, voire décapant, et pourtant très apprécié, paradoxalement, quelque part. Et évidemment doué d'un don pour la parole et pour la rhétorique, évidemment. Un tempérament fougueux qui ne laisse pas indifférent. Comme j'ai dit, son œuvre est très abondante, assez peu de traités spéculatifs. C'est un fan absolu de la figure de Saint Paul, de laquelle il s'est toujours inspiré toute sa vie. Et une caractéristique de ses homélies, il en fait même une méthode de prédication, c'est qu'elles sont divisées en quelque sorte en deux tiers, un tiers. Deux tiers, je commente le texte biblique du jour, souvent celui offert par la liturgie ou celui qu'il est en train de commenter en continu. Par exemple, prenons une lettre de Paul, il commence en continu un commentaire. Pendant deux tiers de son homélie, et le troisième tiers, il passe aux conséquences pratiques de ce qu'on vient d'entendre. Mais il le fait toujours. Parfois c'est très clair, les conséquences du commentaire exégétique découlent presque d'elles-mêmes. Parfois ça n'a rien d'évident, tant et si bien que ça lui est même arrivé de dire « Bon, maintenant on va passer aux choses pratiques, même si ça n'a pas grand-chose de grand rapport avec ce que je viens de dire. » Et il commence une exhortation d'ordre moral en fait. Qu'est-ce que l'on vit aujourd'hui en tant que chrétien? Et là on touche des thèmes extrêmement concrets. Et c'est déjà un peu un point de cuisine en quelque sorte, dont je parlais tout à l'heure. Je n'avais pas de sujet préétabli quand je me suis approché de l'œuvre de Chrysostome. Et je me suis dit, je ne vous ai pas mis la petite diapo d'ailleurs, la deuxième que je vais préparer. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'au départ je dis, je vais peut-être lui demander un petit peu de théologie et la christologie de la Vierge Marie chez Chrysostome, etc. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte, mais cet homme-là, en fait, a passé sa vie à exhorter les gens. Donc il doit avoir une vision de l'homme, des hommes et des femmes qu'il a en face de lui, et en particulier de leur volonté, de leur liberté. C'est ça qu'il faut lui demander, sur ce sujet-là. Et alors à ce moment-là, je me suis approché, j'ai commencé à me focaliser sur cet aspect dans ses prédications, et à me concentrer en particulier, c'était le choix de ma méthode, sur le vocabulaire employé. Et c'est là que je suis arrivé sur le point de vocabulaire dont nous allons parler un peu plus en détail ce soir. Juste pour finir sur cette peinture de Jean-Paul Lorenz qui se trouve à Toulouse aujourd'hui. Je n'ai pas eu la chance d'aller voir en direct, mais j'espère que ce sera le cas un jour. Mais vous voyez que le peintre, donc là, est devant l'impératrice Eudoxie et a voulu rendre à travers la peinture de ce point, toute la force, en quelque sorte, de prédication et de dénonciation, quelque part, que pouvait avoir Chrysostome. Un être un tempérament de feu, en tout cas. Je vous le disais, en cherchant, en lisant, en continu ces homélies pendant des semaines et des semaines et des semaines, ce qui est une expérience assez, à titre personnel, qui était assez déroutante, parce que ce sont des homélies exhortatives. Donc, vous passez votre journée à, j'allais pas dire à vous faire taper dessus, mais au moins à vous faire inviter à la conversion. Quand on passe 6 à 8 heures par jour à faire ce genre de lecture pendant plusieurs semaines, à certains moments, je me disais, mais comment je vais ressortir de cet exercice-là? Je me suis concentré sur un terme de vocabulaire qui est celui-ci. La volonté libre ou la notion de pro-aéresis, chez Jean Chrysostome, c'est le titre de la thèse. Pro-aéresis, en fait, c'est un terme de vocabulaire grec, avec ce préfixe pro et la base aéresis. Aéreo, le verbe aéreo en grec, c'est choisir. Donc, littéralement, ça serait pro-choix, même si ça n'a pas d'incidence sur le sens du mot. Un sens d'ailleurs qu'il est assez difficile de traduire, et un peu chez tout le monde d'ailleurs, que ce soit chez Aristote, Épictète, Chrysostome. Plusieurs propositions sont possibles et valides. On peut très bien traduire ce mot par volonté délibérée, ou choix délibéré, ou résolution, c'est aussi une bonne traduction, bonne volonté, mais on aurait pu mettre aussi, dans certains cas, on pourrait le traduire par intention, désir, préférence, voire choix, projet, plan. Ça peut dépendre du contexte, et en fait, toutes ces notions ne font qu'éclairer la richesse du contenu de ce mot-là. Mais en songeant, par exemple, en français, on aurait le mot volonté. Volonté, c'est pas facile, c'est pas toujours facile à traduire ou à expliquer. Ça peut très bien être un terme, aujourd'hui j'ai la volonté de me lever de bonheur, et je peux très bien aussi écrire un traité philosophique sur la volonté. Donc vous voyez que ça peut être d'usage très quotidien, très courant, à quelque chose de très abstrait ou très fondamental. Et la pro-hérésis rejoint cette amplitude de sens. Tout à l'heure, je vous disais que j'insisterai un petit peu sur l'aspect historique de ce terme parce que il m'a beaucoup aidé à comprendre comment Chrysostome va l'utiliser. Et puis, un autre avantage de ce parcours historique, c'est qu'il est finalement assez simple. En fait, il se résume assez facilement chez deux auteurs principaux. Donc, l'écrivain grec de l'Antiquité, le premier d'entre eux est Aristote, donc penseur du 4e siècle avant Jésus-Christ, fameux. Et le deuxième, c'est Épictète, un philosophe stoïcien du 1er siècle, qui a eu sa carrière principalement à Rome, mais qui écrit en grec. Et deux considérations sur ces auteurs. Le premier, c'est que chez Aristote, en fait, il y a un surgissement de vie politique à son époque, de la naissance de la démocratie à Athènes, et qui porte à porter son énergie de réflexion sur, en particulier, le thème de la responsabilité. Responsabilité politique en général et individuelle en particulier. C'est le peuple qui décide, mais il y a certaines décisions qui sont prises par des personnes. Bref, tout un ensemble de, pourtant, à la réflexion qui a amené Aristote à utiliser ce terme, un terme qui n'est pas utilisé dans la littérature avant lui. C'est vraiment lui qui l'extrait de la littérature grecque pour en faire un terme quasi technique. Et à grands traits, j'ai défini l'analyse qui fait, à un moment donné, il se pose la question de comment on peut analyser les actes, les phases d'un acte volontaire, et en particulier d'un acte volontaire délibéré, donc celui qu'on va trouver chez l'homme, et pas seulement dans le monde animal. Et il dira en gros, il y a trois étapes. La première, c'est un désir, quelque part aussi indéterminé, mais en tout cas quelque chose d'affectif, et sur lequel peut se greffer une délibération, donc un exercice de l'intelligence, de l'intellect rationnel, et auquel peut arriver l'étape de la proairesis, en troisième lieu. Et ce qui est intéressant à retenir, donc là je vous en ai mis une phrase qui illustre un petit peu ça, mais Aristote a de longues analyses, considérations en particulier dans cet ouvrage-là qui est cité là, qui est l'Éthique à Nicomaque. Et ce qu'il faut retenir de l'analyse d'Aristote, la première chose, c'est qu'il tient finalement porte une grande importance à une étymologie basique du mot aéreo, qui est choisir, mais qui serait encore plus concrètement saisir. C'est quand quelque chose est saisi. Je vais m'expliquer de la manière suivante. Je prends souvent cette image pour un peu pédagogique. Vous êtes réunis au repas du réveillon et votre belle-mère, votre beau-père, peu importe, commence sérieusement à vous agacer. Tant et si bien que vous allez pouvoir avoir envie de l'étrangler. En fait, quand surgit cette première étape, c'est le désir-là. Le désir peut surgir, d'étrangler son beau-père ou sa belle-mère. Puis va venir la délibération. Est-ce que ma femme sera contente? Ou est-ce que mon mari sera content? Est-ce que je vais pas me faire arrêter par la police? Comment je vais m'y prendre? Avec une main, avec deux mains? Vous voyez, dans un sens ou dans l'autre, la délibération. Mais toutes ces étapes-là ne constituent pas encore la responsabilité morale. Et autour de cette table de réveillon, à un moment, vous pouvez vous dire, je vais étrangler. Et là, vous commencez à saisir quelque chose qui a été le fruit de désir et de délibération. Vous assumez en quelque sorte à cette décision-là. Et ce qu'Aristote voit à ce moment-là, ce qu'il décrit par la proairesis, il dit, c'est ce moment-là dans lequel, au moment où il est saisi, apparaît aussi le saisisseur, celui qui est responsable, apparaît celui. Apparaît le sujet de la responsabilité. Ça, c'est très très important. Que dans cet acte-là apparaisse un sujet. Et aussi que ça soit un acte. C'est-à-dire, ce n'est pas une faculté. Quand je l'ai décrit tout à l'heure, on peut traduire par volonté délibérée, n'allez pas y voir une faculté abstraite. En tout cas, chez Aristote, c'est très très net. La volonté, qui est définie par la proairesis, ce n'est pas une faculté, c'est un acte présent, concret. Et un acte, quelque chose d'aussi de dynamique, de vivant et en mouvement finalement. Puis le deuxième auteur, c'est Épictète, donc stoïcien du 1er siècle, qui lui va récupérer ce terme. Personne ne le fera d'une telle manière entre Aristote et Épictète. C'est vrai. Pourtant, Épictète n'est pas du tout un aristotélicien, mais récupère ce vocabulaire pour affirmer une philosophie stoïcienne qui lui est propre, avec des accents qui lui sont propres. Et en particulier, il va faire, en fait, il va tout mettre, tout ce qui est dans le résumé du cœur, du cerveau, de l'intériorité humaine, en fait, c'est la proiésis. Et il y aura des phrases qui sont d'une extrême, d'une grande force, celles que vous avez sous les yeux. Zeus, donc le Dieu lui-même, ne peut dominer ma volonté. La volonté est par nature chose libre et non contrainte. Et c'est le Dieu qui m'a recommandé à moi-même, qui a soumis ma volonté à moi seul. Et en fait, Épictète, à travers ce terme-là, définit ce qui fait le cœur du cœur du cœur du sujet. C'est-à-dire l'individu, finalement, dans son essence, dans son noyau le plus central, c'est sa proiérésis, et finalement, c'est sa volonté. Un endroit intérieur où nul ne peut venir, sur lequel personne n'a d'incidence. Ni Zeus, ni Dieu, ni démon, ni personne, en fait. L'endroit de l'intériorité la plus profonde. Presque même au-delà de la conscience, finalement. Nous, aujourd'hui, on dirait peut-être l'endroit de la conscience, l'endroit du cœur. Mais là, il y a quelque chose de dynamique, l'endroit du choix, finalement. Et retenez ça pour la suite, c'est l'assimilation de vraiment qu'Épictète fait entre la proiérésis et la personne, entre la volonté, sa volonté délibérée et le sujet lui-même. Et pour vous aider encore à comprendre, Aristote cherchait parmi les causes qui peuvent définir un événement ou un acte, quelle est la cause humaine finalement, plutôt faisait une analyse à travers l'acte humain de volonté. Et Épictète va encore beaucoup plus loin parce qu'il va comparer la volonté humaine comme cause à côté de toutes les autres causes, le destin, la fatalité, Dieu, le hasard, et il va finalement donner une portée cosmique. Alors, quand on compare la volonté humaine à laquelle rien ne peut atteindre à ce que peut être cause comme le destin, la fatalité, Dieu, etc., en fait, il y a une assomption, quelque sorte, de la liberté, de la notion de liberté, qui se déroule à ce moment-là dans le stoïcisme du 1er siècle. Ces accents-là que vous avez chez Épictète, on les retrouve très très fort chez Chrysostome. Mais on va les retrouver finalement chez la plupart des pères de l'Église, parce qu'ils sont très influencés dans leur vocabulaire, même dans leur culture, par le stoïcisme ambiant, en quelque sorte, de cette époque-là, et des siècles qui vont suivre. À tel point qu'on a pu poser la question, mais finalement, est-ce que Jean Chrysostome en particulier, et puis des auteurs chrétiens de ce temps-là, ne sont pas des stoïciens passés avec un vernis chrétien? Et je suis convaincu que non. Pour une bonne raison, c'est que je vais décrire de manière là aussi très rapide, mais les stoïciens ont dû affronter dès leur époque, et encore maintenant, le problème de l'objection d'opposant, qui est celui du compatibilisme. Autrement dit, comment vous avez arrivé à rendre compatible la pleine autonomie de cette liberté-là, que ni Dieu, ni destin, ni fatalité ne peuvent venir dans son fond toucher, et le déterminisme du monde, qui continue d'avancer. Et on voit bien qu'il y a toutes des lois mécaniques presque dans leur ordre. Comment vous concilier les deux? Ce sont deux choses qui sont très différentes. D'un côté, un déterminisme très très fort, et d'un autre côté, une autonomie, une absence de détermination, qui est typiquement ce qu'est la liberté. Comment vous arrivez à rendre compatible ça? Réponse des stoïciens, on n'y arrive pas. Et Chrysippe a essayé en donnant cette image-là, il disait, c'est le petit chien attaché à un chariot. S'il résiste au chariot, il va souffrir. S'il va dans le sens du chariot, il va se retrouver plus confortable, mais il reste attaché au chariot. Et en fait, la philosophie stoïcienne, c'est typiquement ça. Comprenez dans quel sens va le chariot et vous souffrirez moins. Et la pensée chrétienne, et c'est là que je vais finir à conclure sur cet aspect historique, mais qui est vraiment résumé à grands traits, c'est que je suis convaincu que l'arrivée du judéo-christianisme et de la révélation, je la résume de la manière suivante, va dire: ah, mais attendez-vous, les stoïciens, là, vous avez décrit une liberté, considération de la liberté dans des proportions extraordinaires. Mais vous ne comprenez pas comment elle est articulée au reste du monde. Eh bien, nous vous donnons l'explication. L'explication, c'est qu'en dehors de ce monde-là, de tout ce que vous pouvez voir, il existe un Dieu créateur, donc qui dépasse tout ce que vous pouvez connaître. Et c'est ce Dieu-là qui a donné la liberté, cette autonomie-là. Et il l'a donné là, au milieu de cette création, pour qu'elle réponde à Dieu lui-même. Donc la mesure de la liberté humaine, elle est effectivement divine parce qu'elle est donnée par Dieu et Dieu attend une réponse. Et c'est pour ça, à mon avis, que les pères de l'Église ont pu récupérer si bien tout ce vocabulaire stoïcien pour l'intégrer presque tel quel dans leur théologie. Parce qu'il correspondait et en même temps il lui donnait le lieu susceptible de l'accueillir. Voilà pour cet aperçu historique. Une définition que donne Jean Chrysostome, c'est la seule d'ailleurs, qui donne de manière un peu explicite. Dans le pourtant, j'ai oublié de le dire, mais le mot est cité dans son œuvre quelques 650 fois. Donc je suis allé voir les 650 occurrences du texte et que j'ai essayé de mettre en œuvre, et de mettre en ordre surtout. Et dans toutes ces occurrences, il n'y a qu'une seule fois où il donne une définition explicite, c'est celle-ci. Il n'en est pas de même de la substance de l'âme du corps, de l'âme du corps et du choix délibéré. Les deux premiers sont des œuvres de Dieu, tandis que l'autre, la dernière, est un mouvement, kinésis, qui part de nous-mêmes, ça c'est une expression stoïcienne, qui part de nous-mêmes et qui conduit là où nous voulons. Et la faculté vouloir est naturelle et vient de Dieu. Mais tel ou tel vouloir bien concret est le nôtre et vient de notre intention. Il n'y avait qu'une seule chose à retenir dans cette définition-là, qui est faite d'ailleurs au milieu d'une homélie assez extraordinaire. Elle fait plus d'une 13 ou 15 chapitres, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, à prêcher, donc c'est une homélie sur les Romains, la 13e, en particulier sur cette articulation fin du chapitre 7, début du chapitre 8, donc surtout cette question sur la chair, le péché, la grâce, un contenu théologique extrêmement dense qui a fait couler des fleuves d'encre. Et Chrysostome fait une homélie, donc c'est un enseignement en fait, parce que ça dure une heure et quart de commentaire. Et c'est au milieu de ce commentaire si pointu et de théologiquement très 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 dense qu'il donne cette définition du terme de proaigrésis. Et je ne vois pas un hasard dans le fait que c'est justement au milieu d'un substrat théologique très dense et très important que la définition explicite, la seule fois où il en donne une définition, est dans ce contexte-là. Et si vous voulez retenir qu'une seule chose, c'est que d'abord, on reçoit il y a quelque chose qui est reçu de Dieu, âme et corps, pour l'homme, et que quelque chose s'ajoute en quelque sorte à cela, qui est le mouvement de la volonté, qui est décrite là comme mouvement, et qui part de nous-mêmes, de ce que nous sommes, et qui nous conduit là où nous voulons. Et il y a quelque sorte une responsabilité personnelle à l'endroit où nous arrivons. Je vais essayer encore d'éclairer ça, je suppose que ça peut vous paraître un peu nébuleux, mais je vais essayer encore d'en donner plus de détails dans les textes suivants. Une brève présentation des chapitres de ce livre-là, mais qui sera vraiment très courte par rapport à ce que je peux en donner. Les chapitres 1 et 2 résument à peu près, enfin, contiennent à peu près ce que je viens de vous partager à présent. Le suivant, le chapitre 3, plutôt je vais commencer par là. Je vous avais promis une petite cuisine un petit peu. Comment on en arrive à ordonner, en fait, de partir de 630 occurrences et d'arriver à voir ces chapitres-là? Eh bien, je les ai tous mis sur une feuille et j'ai commencé à les mettre par paquet, en fait. Ah, tiens, là, ça parle. Et particulièrement pour ce chapitre, c'était très clair. Il y a très très souvent le mot proaigrésis physis, nature, volonté, nature, volonté, nature, volonté, nature. Cette comparaison-là qui revient très souvent. Je rassemble tout ça, j'analyse tout ça et ça me fait mon chapitre. À un autre moment, il est question la volonté, volonté délibérée et le mal. Volonté, mal, volonté, mal, volonté, mal. Je rassemble tout ça et puis je vois comment je peux après subdiviser encore. Et j'obtiens le chapitre « La proaigrésis et le mystère du mal ». Et ainsi, on en a d'avant. Donc c'est une analyse finalement très lexicale, très de texte. Et j'avais gardé, pour finir sur ce point-là, je m'étais lancé là-dedans, parce que d'abord j'avais vu que le terme « proaigrésis » avait une histoire philosophique qui était intéressante et qui valait la peine d'être analysée et vérifiée chez Chrysostome. Et puis j'avais une traductrice. J'avais lu une traductrice de Jean Chrysostome qui, tout récemment, il y a quelques années, avait dit « Ah, proaigrésis, c'est un terme très important. » Ils étaient plusieurs à le dire aussi, ce qui avait éveillé mon attention. Et elle disait, c'est comme un fil rouge qui permet de suivre toute la théologie de Chrysostome. Quand j'ai lu cette expression, je me suis dit, mais un fil rouge, il faut le suivre, il faut tirer dessus. Et ma satisfaction, même ma joie, n'a pas été réelle quand des années après, je me suis aperçu que c'était effectivement le cas. À suivre ce fil-là, j'ai traversé toute la théologie de Jean Chrysostome, des points les plus fondamentaux, de théologie les plus fondamentales, aux points les plus pastoraux, je dirais. Et cette unité-là, d'ailleurs, entre la doctrine et ce qui est vécu, est typique de la pensée des Pères. Et à mon avis, il y a une grande inspiration que notre temps peut trouver, dans cette, non pas seulement dans ce qui est apporté dans chacun des domaines, mais dans l'unité qui unit l'un et l'autre. Donc le premier chapitre, c'est sur la pro-hérésis et déterminisme, ou nature et volonté, que je résume très brièvement. Il y a des passages qui sont vraiment succulents là-dessus, parce qu'on parle de la comparaison avec la via millimale, du rapport homme-femme, de la place de l'affectif et du sexe, de la peur de la mort, etc. etc. Tous ces déterminismes, mais aussi sociaux, en fait, c'est tout ce qui contraint, tout ce qui détermine l'existence. Et la conclusion de Chrysostome, elle est claire. Oui, notre vie est déterminée, mais il y a toujours une part possible d'exercice de la volonté et de la liberté. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la liberté, aurait-il pu dire. Le deuxième, c'est le pro-hérésis, donc dans le dessein divin. Je vais y revenir en conclusion. Le troisième, le pro-hérésis, donc le 3, 4, 5e dans l'ordre du livre. La pro-hérésis, c'est le mystère du mal. Il y a plusieurs points importants, mais il y en a un en particulier qui est la ligne de tout ce chapitre. C'est finalement, quelle est l'origine du mal? Et pour Chrysostome, c'est très très clair. Ce n'est pas Dieu auquel le mal est imputable, évidemment. Ce n'est même pas au démon, en tout cas la responsabilité, le mal que nous pouvons commettre, évidemment. Ce n'est pas le diable, en tout cas, qui est responsable de nos actions, pour le dire d'une autre manière. Ce n'est pas non plus tout le déterminisme ambiant. Finalement, la vraie origine du mal, c'est un acte de liberté. Donc c'est la même origine chez le démon et chez l'homme, en fait. C'est pour ça que ce que je voulais dire précédemment. L'origine du mal, aussi bien dans la personne du démon que dans la personne de tous les êtres humains, s'origine en eux-mêmes. Et il reprend en quelque sorte cette philosophie ancienne, connais-toi toi-même, et c'est là que tu découvriras l'origine du mal. L'origine se trouve là et pas ailleurs. Le chapitre suivant, réponse délibérée à Dieu, sanction, mérite et grâce. C'est ce qui aborde tout le sujet des fins dernières, des questions du jugement dernier, du rôle de la responsabilité et de ses conséquences, et de ses conséquences même éternelles. Et vraiment, je décris ça à très très grand trait ici, hein, parce que je n'ai pas le temps de le faire, mais il y a aussi la question de l'articulation entre la responsabilité, l'exercice de la liberté de l'homme et de la grâce divine, ou même des deux actions, l'action humaine et l'action divine. Chrysostome met une belle image là-dessus et dit elles sont comme tressées, comme un fil est tressé de plusieurs brins. L'œuvre, finalement, à la fin arrive, est un tressage de l'action divine, de l'action humaine. Elles sont bien séparées, mais en même temps tout à fait... elles sont distinctes, mais très unies. Et c'est aussi un chapitre qui m'a beaucoup interpellé sur la notion de mérite que j'avais découvert à cette occasion-là. Je vais essayer d'y revenir aussi là, enfin. Le dernier chapitre est aussi extrêmement stimulant, dans le sens où on va passer en revue, là c'est toutes les fois où il a été question, dans des textes de Chrysostome, où il a fait mention de ce terme de volonté en lien avec la vie chrétienne. Donc on passe aussi bien en revue la question de l'ascèse, de la prière, de la vie sacramentelle, en particulier dans le baptême, mais aussi de ces points de spiritualité très importants que sont pour la théologie des Pères, la réalité de la virginité consacrée, du choix de rester vierge et consacrer son existence à Dieu, mais aussi dans l'acte du martyr, le témoignage du martyr. Et puis j'en oublie un aussi, très important, sur celui de la vie caritative, de l'aumône. Je n'ai peut-être pas assez souligné, mais Chrysostome tient aussi bien une théologie fondamentale sur la consubstantialité du Père et du Fils que des aspects de doctrines sociales, dirons-nous, qui sont d'une force assez extraordinaire. On a l'impression de lire un délégué syndical d'un syndicat communiste actuel, tellement dans les revendications qu'il a par rapport aux pauvres. Et les deux sont connectés, en fait, chez lui. C'est très, 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 très clair, très évident. Enfin, voilà pour ce qu'il en était pour l'explication. Je vais en arriver, et ça va être la dernière partie, l'explication du titre que j'ai choisi, « Vivre est un art ». En fait, ce n'est pas une déduction, mais c'est beaucoup plus simplement inspiré par une image que donne Chrysostome lui-même dans un texte et que je vais citer enfin. Je vais le présenter à travers d'autres textes pour essayer de vous en donner la substance. En premier lieu, à travers ce premier texte, le texte suivant, la défense que fait Chrysostome de l'existence de la liberté, il dit, et c'est un argument philosophique assez classique, disons, et difficile à remettre en cause, parce que en fait, il renvoie à l'expérience. Je ne vais pas vous prouver que vous êtes libre. En fait, vous vivez comme des êtres libres, et vous le savez. Par exemple, de ce que dès l'origine Dieu a façonné l'homme avec la connaissance de l'un et l'autre, du bien et du mal, la vertu et du vice, tous les hommes le démontrent. Nous avons honte de commettre une faute même devant nos subalternes, nos serviteurs, et souvent un maître de maison qui allait visiter une prostituée, venant à rencontrer un de ses esclaves dans la rue un peu plus vertueux, a rebroussé chemin en rougissant. Et si l'on nous accuse d'un trait de méchanceté, nous prenons le reproche pour une insulte. À peine éprouvons-nous quelques dommages, nous traînons en justice celui qui nous le cause, tant il est vrai que nous savons reconnaître le vice et la vertu. Et l'expérience, vous savez très bien reconnaître par la honte que vous pouvez avoir, pour la fierté que vous pouvez tirer de certains actes, que l'acte que vous venez de poser est libre, ou encore dans le tort que l'on vous cause aussi. Regardez, si un enfant de 2 ans vous balance de la compote au visage, vous n'allez pas avoir tout à fait la même réaction que si c'est Alexis tout de suite là, qui vous balance de la compote au visage. Vous savez mesurer le degré de responsabilité des personnes, et donc leur degré de liberté aussi. Si au tribunal, un texte suivant, un accusé venait à me dire « mais ce n'est pas moi qui ai, mais la fatalité, car moi je voulais agir honnêtement, hein, mais elle m'a poussé, elle m'a fait tomber. Ne subira-t-il pas une peine plus rigoureuse pour cette raison même qu'il a allégué des excuses ridicules? Obtiendra-t-il le pardon ?» Et, etc. Ces textes gardent une certaine actualité, hein, si on renvoie aujourd'hui à l'actualité judiciaire, par exemple, très axée sur à chercher ce qui déresponsabilise les actes posés. Chrysostome reconnaîtrait, hein, les motifs, j'ai oublié de le dire, mais il y a des situations où il est très très conscient de l'abaissement, voire l'annulation de la responsabilité morale. Mais il sera extrêmement sensible, et encore plus quand on se penche sur ce vocabulaire-là, là où elle existe. Il dit quand elle y est, elle est réelle, et il ne faut pas l'occulter si facilement. Ça, c'est la première chose, le degré d'expérience de cette réalité-là. Maintenant, on va essayer de chercher à définir qu'est-ce que c'est qu'un homme, finalement. L'identité humaine, l'essence humaine, qu'est-ce que c'est? Dans ce texte-là, Jean Chrysostome écrit, ou dit plutôt, « Ce qui est sous mes yeux, quand je regarde la vie de saint Paul, ce n'est pas un assemblage de pièces, de bois ni de toiles étalées, mais l'œuvre de Dieu, une âme et un corps. » En fait, il vient de prendre l'image du tableau de peinture, un cadre, une toile, des pigments. « L'âme est l'ouvrage de Dieu, non des hommes, et le corps également. » Vous avez applaudi, parce que l'assemblée réagit en fait quand ils prêchent, donc à ce moment-là, ils ont applaudi. Ce n'est pas encore le moment, ce sera dans la suite qu'il faudra applaudir, et surtout imiter. Jusqu'ici, il s'agit du matériau commun à tous les hommes. Une âme, en effet, tant qu'une âme ne diffère pas d'une autre. Mais c'est la liberté de la volonté qui manifeste la différence. De même que le corps en tant que corps ne se diffère pas d'un autre, en sorte que celui de Paul ressemble à celui de tout le monde. Là, c'est très important ce qui surgit à travers ce texte-là, parce que on cherchait l'identité humaine, c'est pas exactement ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme, qu'est-ce qui fait que Pierre est Pierre, que Paul est Paul, que Jacques est Jacques. Et on serait tenté de dire, ah, mais parce qu'il a un corps particulier, parce qu'il a une âme particulière, c'est toute son âme, son intelligence qui va faire qu'il est ce qu'il est. Chrysostome répond, dans le fond, non. Parce que le corps qu'il a est comparable à tous les autres corps. Évidemment, il est unique. Mais tout le monde en a un. Et l'âme aussi, avec son intelligence, sa mémoire, sa volonté, est aussi comparable à celle des autres hommes. Donc, à ce titre-là, il est comme les autres. Et tous sont communs, finalement. Et qu'est-ce qui distingue vraiment une personne d'une autre ? C'est vraiment l'exercice de sa volonté, l'exercice de sa liberté. C'est ça qui fait que Pierre est Pierre, que Paul est Paul, que Jacques est Jacques. À tel point que cette image-là, elle est très suggestive, on va retrouver à la fin, dans le texte, cette image de l'œuvre d'art. Ce que j'ai sous les yeux, ce n'est pas seulement un cadre, une toile, mais c'est plus que ça, c'est la liberté qui est engagée dans la vie de Paul. On a une idée finalement de création, et même de procréation dans cet exercice de la liberté. Là, on le retrouve, je vous ai cité un texte de Grégoire de Nice, mais c'est exactement dans la même peau. Illustrez combien Chrysostome se retrouve dans la même lignée. Et on va retrouver au début de la vie de Moïse cette expression qui est en fait extrêmement percutante quand on y songe. Cette naissance, le fait de devenir qui nous sommes finalement, est le résultat d'un choix libre, proa iresis, et nous sommes ainsi en un sens nos propres parents, nous créant nous-mêmes, tels que nous voulons être et par notre propre volonté libre, nous façonnant selon le modèle que nous choisissons, ou mâle ou femelle, donc c'est-à-dire que nous soyons homme ou femme, par la vertu ou par le vice. Nous sommes à nous-mêmes nos propres parents. Et nous nous créons nous-mêmes. Il faut vous rendre compte de la puissance et de la force que dans la pensée antique, ce genre de texte et de pensée, en fait, quelle avancée extraordinaire, en fait, ça fait faire à la pensée humaine. Et songez qu'en fait, cette avancée-là, nous en vivons encore aujourd'hui. La conception de la liberté que nous avons est s'origine dans cette pensée, dans cette époque-là, dans cette période-là. Revenons sur Chrysostome, qui sur cette même fuite dira, dans cette fuite d'idée de création, sur ce thème de la création, il faut l'entendre dans les deux sens du terme, hein, c'est-à-dire création comme le peintre ou l'artiste, le sculpteur, fabrique quelque chose de nouveau, et aussi dans la création, dans le sens du pouvoir démiurgique de Dieu, c'est-à-dire à partir de rien, créer quelque chose qui n'existait pas. Donc créer avec un grand C. Du reste, chacun en agissant peut devenir ange ou homme. Mais que dis-je ange ? Et même un fils de Dieu. Car il est écrit, j'ai dit, vous êtes des dieux et tous des enfants du Très-Haut. Et le plus admirable, c'est que devenir Dieu ou ange ou fils de Dieu est un pouvoir remis entre ses mains. L'homme est un créateur d'anges. Et c'est la vertu qui fait tout entier les anges. Or, nous en sommes responsables. Donc nous pouvons créer des anges, non par notre nature, mais par notre volonté libre. Pardon. Un autre texte, créons l'homme, ça c'est Basile de Césarée, un peu dans la même ligne. Quel est le modèle ou le contenu que nous devons amener à cette création que nous allons faire ? En fait, c'est ni plus ni moins que imiter Dieu lui-même. Dans la première structure, créer à l'image et à la ressemblance, à l'image, dans la première structure, il nous est donné d'être image de Dieu, et par la volonté libre, nous pouvons acquérir la ressemblance. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure encore, nous recevons un corps, une âme, et par l'exercice de ce que nous en faisons librement, nous acquérons ou pas la ressemblance avec le modèle divin. Un bref aperçu, parce que le temps va me manquer, il faut que j'en arrive dans ma conclusion. La réciproque de ce pouvoir-là de création de soi-même à travers l'exercice de sa liberté, c'est aussi un pouvoir de destruction. Tant et si bien que dans un des tout derniers textes de sa vie, Chrysostome va avoir et va répéter avec insistance l'affirmation suivante, « Il n'existe aucun mal ». Et il insiste, il n'existe aucun mal autre que celui que l'on peut s'affliger à soi-même. Tout le mal que vous pouvez faire autour de vous peut être réparé, et Dieu peut réparer tout. Tout le mal même que vous allez subir jusqu'à obtenir votre propre mort, tout ça aussi peut être réparé et réobtenu. Ce qui vous a été donné une fois peut vous être redonné. En revanche, ce que vous vous donnez par l'exercice de votre liberté vous rend bon ou mauvais. Et s'il vous rend mauvais, ce que vous rendez mauvais, c'est vous-même. Et vous vous détruisez vous-même. Et ce mal-là n'a aucune solution. C'est le seul mal possible. C'est le seul mal qui existe. Je passe sur ce point, mais c'est vraiment un point qui m'a longtemps fasciné sur ce que j'ai pu voir. Et il en arrive à la définition de la perfection, finalement. Qu'est-ce que c'est de la perfection ? À qui est comparable celui qui ne peut subir aucun dommage et ne peut nuire à autrui ? Car ce n'est pas la moindre perfection de ne pas vouloir nuire. Eh bien, un tel homme est un ange et même semblable à Dieu. C'est une belle définition de Dieu, finalement, qui est là. Celui qui ne peut subir aucun dommage et celui qui ne peut en vouloir aucun. Qui ne peut nuire à personne ni subir de dommage. Et Chrysostome dit ça, suivant ce que je viens de dire. Je ne peux subir aucun dommage, puisque sur le fond de la révélation et de la résurrection, je sais que, en fait, la vie m'est donnée par Dieu. Elle m'est donnée par création, elle m'est donnée par résurrection, donc je ne crains rien, je ne crains plus rien. Et si moi-même je décide de devenir bon, alors je ne me détruis pas moi-même. Résultat des courses, je ne subis aucun mal, je ne veux nuire à personne, et c'est ainsi que je suis parfaitement à l'image de Dieu. Et Dieu est ainsi, mais il l'est par nature, alors que l'homme le sera par volonté délibérée. Et vous saisissez l'articulation entre grâce et liberté, l'exercice de la liberté finalement. Ne pas pouvoir subir de mal est donné par la révélation et par le salut qui est donné en Jésus-Christ. Là est tout le fondement de la pensée de Jean Chrysostome. Et par-dessus ça, alors vient l'exercice de la liberté, choisir de nuire ou de ne pas nuire, et arriver à la perfection, ni subir de mal, ni en faire à autrui. Et c'est à ça, ainsi qu'on arrive à être l'image de Dieu. Et j'en arrive à mon dernier texte, le plus long, mais que je vais quand même vous lire ou infliger, et qui est tiré, justement, je reviens à ma révélation, c'est ça, d'une première lettre, d'un commentaire sur la première lettre à Timothée. « Et jusque à quand serons-nous cloués et collés à la terre ? Et jusque à quand nous roulerons-nous dans la boue comme des vermisseaux ? Dieu nous a fait un corps de terre afin que nous l'élevions vers le ciel et non pour qu'il nous serve à abaisser notre âme elle-même vers la terre. Mon corps est terrestre, mais si je le veux, il devient céleste. Vois quel honneur Dieu nous a fait en nous confiant une si grande œuvre. C'est moi, dit-il, qui ai fait le ciel et la terre. Je te rends participant de la création. Fais de la terre un ciel si tu peux. Fais de la terre un ciel, tu le peux. On dit de Dieu qu'il fait et qu'il change tout. Il a aussi donné cette puissance aux hommes, comme un père plein de tendresse, qui saurait peindre et qui voudrait aussi instruire son fils de cet art. Et c'est de cette image-là que vient le titre que j'ai choisi. Moi, je t'ai fait un corps qui est beau, dit-il. Je te confie une œuvre plus grande, fais-toi une belle âme. J'ai dit en effet que la terre produise l'herbe et les arbres portant des fruits. Dis toi aussi que la terre produise son fruit et tout ce que tu voudras faire se produira. Je fais la chaleur et le brouillard, je suis l'auteur du tonnerre et le créateur du vent, j'ai formé le dragon, c'est-à-dire le démon. Je ne t'ai point enlevé cette puissance, joue-toi de lui si tu le veux, car tu peux le lier comme un petit oiseau. Je fais lever mon soleil sur les bons et sur les méchants. Alors toi, imite-moi. Fais part de tes biens aux bons et aux méchants. Je suis patient dans les outrages et je fais du bien à ceux qui me les adressent. Imite-moi, toi aussi, car tu le peux. Je fais le bien non pour en obtenir en retour. Imite-moi, toi aussi, et tu ne le feras plus pour obtenir en retour, pour qu'on te le rende. J'ai allumé des flambeaux pour le ciel, allume-en de plus brillants car tu le peux, et éclaire ceux qui sont dans l'erreur. Le bienfait de me connaître est plus grand que celui de voir le soleil. Tu ne peux créer un homme, dit Dieu, sous-entendu comme moi je l'ai fait, mais tu peux former un juste, c'est-à-dire un homme agréable à Dieu. J'ai créé sa substance, toi embellis sa libre volonté. Vois combien je t'aime et pour quelle grande chose je t'ai donné du pouvoir. Voyez, bien-aimé, quel honneur vous est fait, et cependant il est des insensés, des ingrats, les philosophes de ce temps, qui demande pourquoi nous sommes maîtres de notre libre volonté. Dans tout ce que nous voulons de parcourir, nous pouvons imiter Dieu. Si la liberté n'existe pas, il nous serait impossible de l'imiter. Je pourrais commenter longuement, évidemment, ce texte, mais le temps de cet échange-là, en tout cas, arrive à son terme. Simplement pour vous, sur un ou deux points, d'abord, dans le passage précédent, « Fais de la terre un ciel, tu le peux ». Toujours se souvenir qu'il n'y a pas là forcément un programme, il n'y a d'ailleurs pas là un programme politique à faire que la terre d'ici-bas devienne un ciel ou un paradis. Entendez la terre dans, souvenez-vous toujours cette étymologie du corps Adam, le corps de terre, c'est-à-dire concrétise, fait que la terre dans laquelle nous vivions devienne spirituelle, c'est-à-dire agit par une volonté intérieure qui soit bonne. En gros, devient bon dans la vie de tous les jours, concrètement, incarne ça. C'est ça que ça signifie, que la terre devienne un ciel. Dieu est vu ici comme l'image est prise, elle est extrêmement suggestive, je n'ai jamais encore rencontré par ailleurs, si jamais vous l'aviez lu, dites-le-moi, chez d'autres pères de l'Église, mais il est vu comme non seulement un père de famille, mais un père de famille qui serait artiste-peintre, et artiste-peintre qui voudrait transmettre son art, un artiste. Moi, j'ai trouvé cette image extrêmement enthousiasmante, finalement. Si tu le veux, et répété trois fois, si tu le veux, si tu le veux, si tu le veux, tu peux imiter Dieu. Et quel est le contenu de cette imitation? Et paradoxalement, ce n'est pas... Il est parfois fait allusion au texte de la Genèse, j'ai créé l'herbe, j'ai créé les animaux, etc. Mais il est plus souvent fait référence à l'événement, paradoxalement ou sans paradoxe, de la croix. C'est lier le mal, le démon, distribuer au bon comme au méchant, être patient dans les outrages, donner la lumière de la connaissance de Dieu. Voilà tout ce qui se passe sur la croix. Et c'est là qu'on voit il y a la profonde connivence qu'il y a entre l'événement de la création et l'événement de la rédemption. Imite-moi si tu le peux, si tu le veux. Pour terminer, comment conclure? Tout d'abord, je dirais, le dernier thème auquel je viens de faire allusion est marqué, j'ai eu l'occasion de le creuser par ailleurs, c'est à quel point, en fait, l'exercice de la liberté humaine, c'est l'exercice de la gratuité, c'est-à-dire ce qui est rajouté qui n'existe pas. Prenons l'image tout à l'heure de Saint Paul. Il l'illustre de la manière suivante. Saint Paul pouvait exiger un salaire à cause de son activité de prédicateur. Et à un moment donné, il dit à la communauté à qui il s'adresse, « J'y ai renoncé, par intérêt pour vous. » Et Chrysostome dit, vous voyez, ça, il n'était pas obligé. D'où ça vient? Ce n'est pas une obéissance ni à une loi de la nature, ni même à une loi religieuse, ni même à une loi ecclésiale. Ça vient de lui. Ce n'est pas obligé, c'est gratuit, d'où ça vient seulement de lui. Et il va même jusqu'à dire plus loin, en fait, Paul, à la fin, ce ne sera que ça, l'identité de Paul, c'est-à-dire ce qu'il a rajouté, ce qu'il a donné de lui-même. Son corps, sa carrière, son appel, sa vocation, son apôtre, le fait d'être apôtre et tout ça, mais tout ça, la plupart des choses-là sont reçues. Et qu'une seule chose qui n'est pas reçue, c'est ce qu'il donne de lui-même. Et en fait, la manière dont il se donne lui-même. Paul, c'est ça. Mais ça sera ça aussi pour Pierre, pour Jacques, pour Jean et pour tous les autres. Votre identité profonde, finalement, sera ce que vous avez donné. Et finalement, vous serez jugé sur l'amour, pour reprendre Saint Jean de la Croix. C'est la proie hérésiste, la volonté libre, c'est la capacité d'agir gratuitement, librement, donc d'aimer. Pour le dire plus simplement. Et cette gratuité-là, elle est profondément enracinée dans la contemplation de la gratuité de la création. Et il n'y a aucune autre raison dans l'acte créateur de Dieu qu'une pure gratuité. Il n'y a aucun motif. Ça dépasse. Dieu est plénitude en lui-même, mais il y a un dépassement inattendu et purement gratuit qui est celui de créer et qui est dans le pur intérêt de la créature. Et dans cette gratuité-là s'origine finalement l'existence de la liberté de laquelle nous jouissons tous les jours. La deuxième chose, c'est que C'est une vision anthropologique extrêmement stimulante. Je faisais allusion au commentaire qu'il fait sur ce passage pareil, de la fin du chapitre 7 aux Romains. Je fais le mal que je ne voudrais pas, et je ne fais. Comment c'est? Je fais le mal que je ne voudrais pas. Exactement. Et nous, nous sommes tentés de voir, nous, occidentaux, augustiniens, comme le drame de l'humanité, en disant, ah oui, j'aimerais bien faire, mais j'y arrive pas, parce qu'il y a plein de choses qui m'empêchent, etc., etc. Commentaire de Chrysostome, ah, mais cet homme qui dit là, il dit, j'aimerais bien faire le bien, j'y arrive pas, mais j'aimerais bien, désir intact. Il dit, ah, je fais le mal, je voudrais pas et tout, mais je fais le mal. Faculté intacte, puissance intacte. Il peut toujours vouloir, il peut toujours désirer, et il peut toujours faire. En cet homme-là, il est toujours possible de changer quelque chose. Une conversion est toujours possible, en fait. Parce qu'il peut toujours il a la capacité de désirer et il a la capacité de vouloir. Peut-être c'est amenuisé, mais ça existe toujours. La preuve, il le dit. Chrysostome a une approche de ces questions-là qui n'est pas du tout abstraite ou théorique, mais il s'attache à la liberté, encore une fois, expérimentale, telle qu'il l'a sous les yeux. Moi, là, au moment où je vous parle, je vous dis que vous pouvez changer tout de suite. C'est ce que dit Chrysostome à longueur d'homélie. Et c'est une vision anthropologique extrêmement stimulante, mais extrêmement responsabilisante aussi, je m'en suis rendu compte. Vraiment, ça interpelle la responsabilité humaine. Jusqu'où veux-tu te donner ce que tu as reçu? Personne ne l'a fixé. Qu'est-ce que tu fixes? Hein, jusque-là? Et pourquoi jusque-là? Pourquoi pas un peu plus loin? Et pourquoi pas un peu plus loin encore? Jusqu'où tu vas investir le potentiel de gloire, de sainteté que Dieu t'a donné? Ça, c'est le message de Chrysostome. Et c'est une grande correspondance avec le saint vraiment qu'il était. J'en étais de plus en plus convaincu à le lire. Il y a une espèce de résolution dans toute son existence qui commence très très jeune et qui trace une ligne directrice toute droite dans son existence. Il a choisi le Christ et il ne l'a jamais lâché. Il a toujours tenu. Et ça arrive aussi au fait que à la fin, ça lui a valu de souffrir finalement, ou d'en payer le prix. Et puis, pour finir, mais j'espère vous avoir convaincu de ce point-là, c'est la grande actualité de ces. Je vais me retrouver. C'est dommage, je ne vais pas avoir la citation sur la photocopie que j'ai demandée. Si vous permettez, je vais essayer de la retrouver. Je m'excuse pour s'être. J'aurais pu vous citer simplement la citation d'une actrice iranienne, toute récente, parce que simplement pour vous illustrer l'actualité du propos. Si je retrouve ma, je vais retrouver ma page. C'était dans le journal Le Monde du 12 octobre 2022. Golshifteh Farahani, une actrice iranienne, une quarantaine d'années, aujourd'hui disait commenter la dernière révolution iranienne, la jeunesse iranienne dans son pays. Elle avait la phrase suivante: l'idée fondamentale de ces jeunes manifestants iraniens tient en un mot, liberté. Et elle ajoute, derrière, il n'y a ni théorie, ni idéologie, ni concept historique ou philosophique. Eh bien, c'est faux. C'est faux, c'est-à-dire que moi je trouve ça assez fascinant que des générations qui reconnaissent encore aujourd'hui au XXIe siècle vivre de cette valeur-là dans une telle comment dire, exigence en quelque sorte, en fait sans le savoir, s'enracinent dans ce substrat-là qui est celui de la fécondité de l'Évangile, ni plus ni moins, qui est venu féconder au sens le plus loin, presque trivial du terme, la pensée grecque antique sur ces questions-là, et d'une fécondité qui en fait continue encore aujourd'hui, vit toujours. Et elle était constatable, elle est constatable à travers les siècles, j'ai d'autres citations, mais c'était pour vous en donner un aperçu. Et pour finir, oui, sur cet petit aspect historique, ça aussi, avoir une vision si positive de la liberté, ça aussi amène à avoir une vision presque positive parfois de ses conséquences presque malheureuses. Et que parfois, dans les malheurs du monde, oui, dont on peut se lamenter, ou dans les mauvais choix, finalement, ce n'est que la mise en œuvre de la liberté de l'homme qui continue. pour le dire de manière plus triviale, quand le fils prodigue est au milieu de ses cochons à désirer des caroubes, il est toujours en train de vivre la volonté du père qui lui a laissé cette liberté-là. C'est assez paradoxal, mais c'est le cas. J'espère vous avoir donné un aperçu assez bref, mais large, de la pensée de Chrysostome sur ce thème-là. Et je vous remercie pour votre attention.
C'était le bon moment pour applaudir. Non, Chrysostome avait ce moment-là dans ses homélies. Mais en tout cas, un immense merci pour te répondre. En tout cas, en titre personnel, oui, pour chacune et chacun de nous, fait entrer, tu nous as fait goûter quelque chose de la force et de la profondeur de cet homme de Dieu. Donc vraiment, un grand merci, Alexandre. Et donc, on a envie de t'entendre un peu plus, donc on peut te poser nos questions. Voilà, donc, si vous le souhaitez, je vous passe le micro pour quelques questions. Je regarde. Oui.
Alors, merci beaucoup pour l'exposé passionnant. Ça donne envie de rentrer dans l'œuvre de Saint-Jean Chrysostome pour s'en nourrir. Moi, je suis resté accroché par le passage sur le mystère du mal. Je trouvais tout juste suggestion que l'autodestruction à soi-même, en fait, hein, l'autodestruction qu'on se cause. Est telle que même Dieu ne peut rien y faire. Je vais mettre en regard avec ce qui est exposé là, encore.